Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Jusqu'à 17h, vous écoutez L'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais.
OK, la chronique en droit du travail. Encore une fois, là, plusieurs sujets cette semaine avec Maître Philippe Coderre. Salut Philippe!
Salut LP!
D'abord, certaines entreprises qui songent à verser des primes aux vaccins à leurs employés, là, le vaccin COVID, ce qui se fait déjà dans certains cas aux États-Unis. Ici, ce serait légal ou pas, Philippe?
Je doute fortement que ce serait légal pour une seule et bonne raison. On a une charte, vous savez, on en parle tout le temps de la charte. Il y a la charte canadienne, mais il y a aussi la charte québécoise là, qui régit les rapports privés. Et cette charte-là interdit toute forme de discrimination. Puis, c'est quoi de la discrimination? Ben, c'est une exclusion, une distinction là, qui est fondée sur un paquet de critères. Là, ça peut être la couleur de la peau, le sexe, l'identité, la notion d'handicap aussi, la notion de droit à la religion.
Ouais.
Donc, une politique de cette nature-là, ce que ça ferait, c'est que il y a des gens qui ne veulent pas le vaccin, mais il y en a qui ne peuvent pas l'avoir, le vaccin. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça...
Ils perdent rien, par contre.
Ils perdent rien, sauf que dans la charte, là, c'est très clair, là, à l'article 19, ça dit qu'on ne peut pas accorder un traitement ou un salaire différent fondé sur un motif discriminatoire. Puis les motifs discriminatoires, comme je disais, il y a l'handicap, il y a le droit à la religion. Donc, si quelqu'un, par exemple, en raison de son état de santé, ne peut pas avoir le vaccin, ben cette personne-là, c'est pas de sa faute. Et là, elle subit une différence de traitement au niveau salarial.
Ouais.
En raison de son handicap. Fait que c'est dans cette optique-là, je pense que ça va être très difficile d'appliquer pour les employeurs, à moins qu'ils fassent un paquet d'exceptions. Et encore là, quelqu'un qui dirait « Moi, je ne veux pas le vaccin par conviction politique, parce que je ne crois pas là-dedans, ou peu importe », ben les convictions politiques sont aussi protégées par la charte. Est-ce qu'on pourrait l'interpréter aussi largement que quelqu'un qui dit « Je ne crois pas dans le vaccin », je ne le sais pas, là, ça pourrait être débattu. Mais ultimement, je pense qu'on est sur un terrain très glissant si on commence à faire des disparités de traitement comme ça, considérant que c'est clairement interdit par la charte, si on se retrouve dans un des motifs. Donc, le fait d'être vacciné ou de ne pas être vacciné, ce n'est pas un handicap. Donc ça serait correct, ça serait pas sur cette base-là. Mais quelqu'un qui ne peut pas être vacciné pour cette raison-là, à cause de son état de santé, par exemple, ou même son droit à la religion, ça pourrait ouvrir une canne de verre là-dedans aussi, ben là, la mesure serait discriminatoire pour ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être difficile à implanter au Québec.
J'en parlais avec François Gagnon hier, qui citait un article qui mentionnait que peut-être que ça pourrait passer dans des milieux de travail syndiqués.
Moi, je vois difficilement comment, si ce n'est pas permis pour les salariés qui ne sont pas syndiqués, je vois difficilement comment ça peut être permis pour les salariés syndiqués, considérant que la base de mon raisonnement repose sur la charte, et la charte s'applique aux conventions collectives. Donc, ça se peut des fois qu'un syndicat va négocier des clauses qui seraient contraires à la charte, sauf que si quelqu'un se plaint par grief, on peut faire invalider la disposition.
OK. Donc moi, dans un milieu de travail, mettons, une petite shop là, où il y a 6 employés, puis le boss arrive, puis mettons, il y a un syndicat, puis il dit au président, sonde ton monde, puis si tout le monde est d'accord à se faire vacciner, je donnerai des primes, puis mettons que tout le monde est content avec ça, puis il n'y a pas de plainte, bien, au fond, tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un décidait de se plaindre, bien, c'est là que ça pourrait peut-être causer des problèmes. En fait, qu'est-ce qui pourrait arriver, Philippe, à un employeur qui décidait quand même d'aller de l'avant avec des primes COVID? Ce serait quoi les conséquences?
Ben, c'est ça, les conséquences, s'il y a personne, si tout le monde est d'accord, tant mieux, mais s'il y a des gens qui se plaignent, c'est de faire une plainte à la Commission des droits de la personne, un peu comme Jérémy Gabriel a fait dans le dossier MyCourt, c'est ce recours-là. Donc, tu déposes une plainte à la Commission des droits de la personne, eux vont faire une enquête pour voir si l'employeur a respecté les dispositions de la charte. Peut-être que dans leur grille d'interprétation, ils vont juger que ça n'est pas de la discrimination, peut-être qu'ils vont dire, ben, c'est pas lié à un handicap, c'est pas lié au droit à la religion, donc c'est correct, on le sait pas. Et suite à cette enquête-là, ben, c'est eux autres qui vont aller tenter la poursuite contre l'employeur pour réclamer des dommages. Et là, je vous dirais que dans ce domaine-là, les dommages ne sont pas substantiels. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pourrait coûter, à mon avis, des dizaines de milliers de dollars à l'employeur, là. Mais ça pourrait être perçu comme une pratique discriminatoire par la Commission des droits de la personne.
Hey, tant qu'à parler du vaccin, Philippe, une entreprise pourrait-elle aller jusqu'à demander à ses clients une preuve de vaccination pour les laisser entrer dans le commerce?
Ben là, ils sont aussi à la charte encore. Il y a un article pour tout, hein, dans la charte, ils ont pensé à tout. Donc, ce qu'on voit, là, j'essaie de trouver l'article pendant que je te parle. Il y a un article qui dit clairement qu'on ne peut pas refuser l'accès à des commerces tels que des cinémas, des transports en commun, etc., basés sur un motif discriminatoire. Donc, encore une fois, tout repose sur est-ce que c'est un motif discriminatoire ou pas, parce que si c'est le cas, c'est pas permis au niveau des employés, puis c'est pas plus permis au niveau de votre clientèle. Évidemment, là, la game peut changer quand c'est l'État qui l'exige en vertu de la loi sur l'état d'urgence. Là. Ça, c'est une autre game.
Mais c'est pas le cas présentement. Donc, un client pourrait lui aussi déposer une plainte à la Commission des droits de la personne contre le commerce en question.
Exactement. Sauf que là, ça serait sa personne, ça serait son côté personnel à lui qui serait débattu. Donc, lui, est-ce qu'il a un handicap? Est-ce qu'il a exercé son droit à la religion? Est-ce qu'il a exercé des convictions politiques? Peu importe, ça va être à lui de démontrer ça. Là. Parce que, comme je vous dis, le fait de ne pas vouloir se faire vacciner, tout dépendant de la raison, ça ne constitue pas nécessairement un motif discriminatoire. Il faut vraiment rattacher ça à une des séries de facteurs là, que j'ai énumérés tantôt.
Oui. Prochaine question, ça sort un petit peu du cadre du droit du travail, mais je voulais t'entendre là-dessus pendant qu'on parle de la charte, justement. Là. T'en penses quoi du recours déposé par Maître Desrochers cette semaine concernant le couvre-feu? Lui, il estime qu'empêcher le monde de sortir seul ou en bulle familiale après 8 heures le soir, ça va trop loin.
Ben là, c'est sûr, je suis pas un spécialiste. Moi, des droits de la personne, je l'ai fait surtout dans un contexte droit du travail, là, donc j'ai jamais contesté de législation. William, je le connais très bien. Là, j'ai fait mon droit avec lui. C'est un excellent avocat. Ce que j'en pense, ben c'est les mêmes critères que j'énumère tout le temps. C'est-à-dire que faut faire la preuve du côté de l'État qu'il y avait un objectif urgent. Ça va être facile à faire. Là. Est-ce que c'était rationnel comme mesure? Bon, ça reste à voir. Et je pense, si j'ai bien compris de William, ce qu'il reproche, c'est au niveau de l'atteinte du critère de l'atteinte minimale. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas porté atteinte le moins possible parce que ça vise des situations qui n'ont pas rapport. Sauf que là, le gouvernement risque de répondre, ben comment voulez-vous que j'implante mon couvre-feu si j'ai pas assez d'effectifs pour surveiller tout le monde qui sont sur les routes? Quand je sais qu'il n'y a personne sur les routes, ben au moins c'est facile pour mes gens sur le terrain de faire la part des choses.
Exact.
Donc, j'imagine que ça va être ça la réponse du gouvernement.
Clairement.
Qu'est-ce que j'en pense au niveau des chances de succès? Ben ça reste à voir. Je pense que c'est important. C'est important surtout si ça se prolonge. Franchement, c'est le 8 février. Ça va bien. C'est dans le sens que c'est une petite période. Sauf que si c'était renouvelé pour un autre mois, puis après ça, un autre mois, ben là, m'amener ce recours-là peut être pertinent pour que les juges...
Pour encadrer la suite des choses.
Ben oui, oui. Voici la limite. Là. Oui. Voici la ligne où on la trace.
C'est fun que t'en parles, parce que j'ai eu beaucoup de réactions là-dessus, Philippe. Je l'ai eu en entrevue hier midi. Puis il y en a qui disaient « Ah, il veut juste se faire de la publicité avec ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure, blablabla. » Mais comme tu dis, là, on a une date 8 février, mais mettons que le gouvernement décidait de poursuivre ça pendant un autre 2 mois, mais là, c'est important peut-être que ça soit clarifié, là, jusqu'où on peut aller.
Exact. Puis connaissant William, là, je peux vous dire que c'est pas pour la publicité qu'il a fait ça. Là. C'est quelqu'un de conviction, donc je pense vraiment qu'il a fait ça pour les bonnes raisons. Puis comme je te dis, si ça l'arrête le 8 février, on s'entend qu'on n'en parle plus. Mais si ça se prolonge à un moment donné, ben il faut que les juges analysent la situation, de voir si ça a du bon sens ou pas.
Deux petites vites en terminant. La première, du champ gauche. Tu voulais aussi nous parler aujourd'hui du DG des Mets de New York qui a été congédié pour harcèlement sexuel, Philippe.
Oui, ben en fait, c'est juste un prétexte pour parler de baseball dans ma chronique. Hein,
J'aime ça!
Non, ben sérieusement...
Il venait d'être engagé, lui, puis on disait que c'était une étoile montante du baseball.
Ben exact, ça fait 37 jours qu'il a été engagé. Puis pourquoi je veux en parler? C'est un petit rappel aux employeurs par rapport à leurs droits et obligations. Là, ce qui se passe, c'est que cette personne-là aurait échangé des textos à caractère là, d'harcèlement sexuel je pense 4-5 ans auparavant, c'est sorti dans les médias. Et là, l'employeur, au début, sa réaction a été lourdement critiquée parce qu'ils ont eu l'article à peu près une dizaine d'heures avant. Et là, ils ont fait un communiqué un peu laconique, un peu pour voir ça serait quoi l'opinion publique là-dessus. Puis après ça, ils ont procédé au congédiement. Ce que je dirais aux employeurs, c'est que même au Québec, une situation comme ça qui surviendrait, si les gestes portent atteinte à l'image de ton entreprise, puis à tes intérêts légitimes, puis ça ne cadre pas avec tes valeurs, la première chose à faire, c'est de suspendre administrativement la personne, même si l'article n'est pas sorti. Au moins, vous montrer que vous avez pris ça au sérieux, puis vous faites une enquête à l'interne.
Oui,
t'as pas
l'air juste en mode réaction. Parce qu'il y a un article qui est sorti, ben on prend des mesures.
Exact. Puis un autre rappel aux employeurs, c'est que ça peut, même en droit québécois, être des motifs sérieux pour mettre fin à l'emploi, même si ça s'est pas passé pendant l'emploi, puis même si ça s'est passé auparavant. Donc, on a parlé beaucoup là, la question d'image de l'entreprise. C'est un facteur qui permet à un employeur de mettre fin à un emploi. Donc, même au Québec, on aurait un cadre supérieur qui vivrait une situation similaire. Ben, l'employeur, ce que je lui dirais, c'est fais ton enquête administrative tout de suite, peu importe que l'article sorte ou pas. Essaie surtout pas d'attendre la réaction de l'opinion publique. Faut que tu montres que tu as fait ton travail. Parce qu'ultimement, le juge va analyser le travail de l'employeur et non pas ce qu'il y a dans l'article lorsque le congédiement va être contesté. Puis dans ce cas-là, lui, je pense qu'il y avait un contrat de 4 ans, ben, les maîtres ont dit on te congédie pour cause, donc on te donne pas une scène.
Ah oui, oh, ça, il risque de contester par contre.
Il risque de contester, mais encore là, c'est les. On peut, comme employeur, puis là, je dis pas qu'il n'y a pas une preuve importante à faire, là, mais on peut, comme employeur, congédier sur la base de choses qui se sont passées avant, si on ne les savait pas lors de l'entrevue. Donc, on va voir comment ça va se matérialiser. Ça va être bien intéressant de suivre ça, si lui, il conteste. Surtout que lui, il n'a plus de carrière. On s'entend qu'il a fini sa carrière, là, donc il n'y a plus grand-chose à perdre, à mon avis.
Effectivement. Et en terminant, Philippe, l'ex-DG de la police de Montréal maintenant, Philippe Pichet, qui réclame 3 millions de dollars en dommages moraux au ministère de la Sécurité publique. C'est un montant énorme, là, ici au Québec, dans ce genre de poursuite. Qu'est-ce qui pourrait justifier autant de dommages en droit du travail, Philippe?
Moi, j'ai jamais vu ça, du 3 millions de dommages moraux. Là, il y a peut-être des quelques décisions qui existent, mais je les ai pas vues. Ici, ce qu'il semble reprocher à son employeur, c'est que ça a été quasiment une commande politique, je pense, son congédiement. Ce qu'on voit dans l'article, c'est que même ses boss lui ont dit « on n'a rien contre toi, on n'a pas de motif, mais essentiellement, il faut te remplacer ». Et je crois que la façon que ça a été géré publiquement, c'est ce qui ouvre la porte là, aux dommages moraux.
Puis ça, wow. Tous les employeurs, hey, si ça va à procès, Philippe, ça va être assez croustillant. Merci, là.
Ben c'est certain. Et puis, pour les employeurs qui nous écoutent, quand j'indique à mes employeurs, là, puis on procède à un congédiement de quelqu'un, je leur explique toujours que la façon de faire est importante. Parce que non, quand on congédie quelqu'un, on ne s'expose pas à des dommages moraux. Mais on peut s'exposer à des dommages moraux si la façon qu'on a congédié constitue une faute civile. C'est-à-dire que c'est vraiment, on sort des règles établies. Et quand on diffuse publiquement des informations, ben effectivement, ça peut ouvrir la porte à des dommages moraux. Moi, ce que je pense que son avocat veut faire, c'est justement demander beaucoup pour régler hors cours, parce qu'il sait très bien que le SPVM et que le ministère de la Sécurité publique ne veulent pas faire un procès avec ça. Donc, je pense que c'est là qu'il leur lève.
Donnez-moi un million, on n'en parle plus. Là. C'est peut-être comme ça que ça va finir.
C'est peut-être comme ça, effectivement.
À suivre. Merci beaucoup, Philippe.
À la semaine prochaine.
Yes, à bientôt.